Réplique Sauver l'obscur autour des peintures noires de Goya avec Jacqueline Risset et Jean-Paul Marcheschi. C'est un exercice périlleux que je voudrais convier aujourd'hui le peintre Jean-Paul Marcheschi et l'écrivain Jacqueline Risset. Parler à la radio de peinture. Mais cet exercice délicat est aussi salutaire, car l'image aujourd'hui nous manque moins que le langage. Il faut des mots pour voir, nous avons besoin de mots, si nous ne voulons pas traverser les salles de musée en aveugle, affairés et photographiant. À quoi bon s'employer par les fracassantes manifestations du tourisme culturel à réduire la fracture sociale si c'est pour aggraver, en laissant le vocabulaire se raréfier et la syntaxe s'avachir, la fracture de tous avec le monde sensible. Au peintre de nous prêter ses yeux, au poète son verbe. Nous partirons donc d'un livre merveilleux, celui que Yves Bonnefoy a écrit sur Goya, « Goya, les peintures noires ». Comment, Jacqueline Risset, avez-vous reçu ce livre? Que dit-il? Que vous a-t-il dit, Jacqueline Risset?
Je crois que c'est un livre rare, parce que, en effet, Yves Bonnefoy a écrit beaucoup de livres sur la peinture, et il y a aussi un certain nombre de livres sur Goya. Mais je crois que ce livre-ci, pour Bonnefoy, est une traversée. Vraiment, plus qu'un livre sur des peintures, c'est un livre qui essaie de percer, enfin, ou en tout cas, d'approcher une énigme. C'est ce qu'il dit, il y a chez Goya quelque chose qui résiste. Il y a un mystère autour de Goya, dont le centre est probablement cette période dans sa vie et dans son œuvre, celle des peintures noires, c'est-à-dire le moment, le temps où il a été enfermé dans cette maison qu'on a appelée la maison du sourd, dans la campagne, lorsqu'il avait abandonné, disons, tous ces rapports sociaux qu'il avait pourtant, puisqu'il a commencé Goya comme un peintre qui faisait des peintures de commande et qui avait des rapports avec toute la société madrilène, en particulier avec la société royale et avec la société aussi des intellectuels de cette époque. Et cet enfermement total est quelque chose de très rare, et c'est un enfermement, et je ne me rappelle plus si Yves Bonnefoy parle de ce fait, mais du fait que ces peintures noires, elles sont noires tout d'abord parce que Goya a recouvert des toiles, enfin des paysages qui avaient des couleurs, et il a tout recouvert. Et
des paysages, c'est-à-dire
des paysages qui étaient dans la maison.
Qui étaient peints.
Ah oui, qui n'étaient pas de lui.
Qui n'étaient pas de lui. Donc il a peint sur peintures de paysages.
Et donc, le noir est vraiment ici quelque chose qui est vraiment noir, qui a aussi le côté négatif du noir. Mais ce que je trouve passionnant dans ce livre de Bonnefoy, c'est que, d'une certaine façon, il le dit, il s'expose lui-même, c'est-à-dire qu'il y a une sorte d'intervention très intensément subjective de Bonnefoy, qui essaie d'entrer, de comprendre Goya, de comprendre cette trajectoire extraordinaire de Goya, qui peint pendant plusieurs années des cartons de tapisserie.
Oui, c'est ça. Des cartons qu'il peignait pour satisfaire
les demandes.
Yves Bonnefoy dit que ces cartons ne paraissent le plus souvent que des évocations de vie pastorale, ou les façons et travaux du petit peuple et des villes dans des situations stéréotypées, ou encore des jeux d'enfants ou de jeunes filles censés les uns et les autres être des exemples d'une aimable pureté d'âme. Donc il a commencé par la carrière la plus conventionnelle.
Exactement,
c'est ça qui est tout à fait saisissant.
Et ensuite, c'est là où Bonnefoy commence à jeter une sorte de trouble dans cette image apaisée, tranquille, sociale de l'image de Goya. C'est lorsqu'il discerne, lorsqu'il décrit des sortes d'inquiétudes étranges à l'intérieur de certains de ces cartons. Et il désigne en particulier l'un qui est très connu, le qu'on appelle le pantin, où on voit des jeunes filles qui lancent une sorte de personnage qui est un mannequin sur une sorte de nappe de toile qu'elles tendent entre leurs mains. Et ce personnage désarticulé, tout d'un coup, et ça c'est Goya évidemment qui produit cette impression, parce que ce carton-là, on peut très bien imaginer qu'il aurait pu être exactement comme les autres, une description d'un jeu à l'occasion de certaines fêtes, etc. Et rien de plus, et même une sorte de rire. Mais ici, ce rire se fait inquiétant parce que il y a dans la désarticulation du pantin tel qu'il l'a décrit une sorte de souffrance extraordinaire. On sent cette sorte de dérision qui est en jeu dans le jeu, souvent. Et il décrit un autre qui est celui qu'on appelle celui des nains.
Les petits géants.
Les petits géants.
Les gigantias.
Oui, et ces petits géants ont une expression aussi très troublante et très trouble parce que ce sont des sortes de personnages, ces sortes de grosses têtes, ce sont déjà un peu des monstres, disons. Et ils sont là aussi inquiétants. Et il regarde en face le spectateur et déjà, donc, Goya inquiète ce genre qui est le moins inquiétant de tous.
Mmh. Il y a cette phrase aussi de Bonnefoy qui fait le lien entre toutes les périodes de l'œuvre de Goya. Il n'est pas de grand peintre chez qui l'impensable ou le censuré ne soulève de leur épaule dans l'invisible le sol des significations qui les couvrent. Donc il y a quelque chose comme ça. Il y a les significations admises, les formes, les conventions, tout ce qu'on peut verbaliser, et puis un fond qui apparaît et qui apparaît de plus en plus dans les peintures noires. Et
ce qui est d'ailleurs très intéressant dans cette phrase même que vous venez de dire, c'est qu'il étant au grand peintre, c'est le fait que même des peintres qu'on peut considérer comme aux antipodes de Goya, de la même époque, enfin un peu précédent, Tiepolo par exemple, qui est par excellence le peintre du bonheur, le peintre de la non-inquiétude, des couleurs, justement, l'anti-noir, etc. Eh bien, il y a un livre qui vient de sortir de Roberto Calasso en italien qui s'appelle « Il Rosa di Tiepolo ». Et il analyse, à côté de ce rose de Tiepolo, le noir ou sinon le gris de Tiepolo, les scherzi dans lesquels il y a la mort à tous les tableaux.
Alors, restons-en là pour le moment au noir de Goya, et je vous pose, Jean-Paul Marcheschi, la même question: quel effet sur vous qui êtes peintre et pas simplement amateur de tableaux a fait le livre d'Yves Bonnefoy?
Alors, je l'ai lu comme un des livres les plus, non seulement les plus profonds sur Goya, mais aussi comme une méditation magnifique et sans concession sur l'art en général et sur la nuit en particulier. Et le simple titre, les peintures noires, quelque chose qui intimide. Il faudrait peut-être reprendre le titre espagnol qui est encore plus fort. Pinturas negras. Et donc, qu'un poète s'approche de cette œuvre qui, malgré sa place mythique et sa descendance écrasante, enfin énorme, sur toute la peinture qui va s'en suivre jusqu'à aujourd'hui, a au fond reçu assez peu de commentaires satisfaisants, profonds. Bien sûr, il y a Baudelaire, et on se demande d'ailleurs dans Les Phares, le fameux passage de Baudelaire, qui inscrit d'ailleurs immédiatement Goya, là où Goya se dessaisit de tout et bouleverse tout, dépasse le temps, entre dans ce qu'on pourrait appeler justement cette lignée prestigieuse et rare des artistes anachroniques. Et donc, il faut rappeler le Catherine de Baudelaire, hein, c'est Goya, Cauchemar, plein de choses inconnues, de fœtus qu'on fait cuire. Il y a cette cuisson fœtale qui me semble pas du tout une image arbitraire, hein, sur laquelle on imaginerait, par exemple, un grand texte d'Artaud sur cette question du fœtal, qui va, je crois, et que je trouve que Bonnefoy va s'en saisir à un moment donné, lorsque on va entrer dans le chapitre qui, au fond, justifie le livre, où Bonnefoy, à la fois, entre très profondément dans les mystères de Goya, mais aussi, et vous l'avez dit tout à l'heure, il y a, c'est je crois, la force du texte de Bonnefoy, c'est qu'il ne se compare pas, mais qu'il s'identifie à Goya. Donc, j'ai été surpris quand j'ai appris que ce livre paraîtrait. Je l'ai guetté pendant des mois, parce que j'aimais beaucoup, j'avais lu avec la plus grande attention les écrits sur l'art de Bonnefoy, mais Bonnefoy était lié pour moi, au fond, aux œuvres claires, au monde clair, au grand monde clair, renaissant, avec, déjà, bien sûr, il y a ces textes très beaux sur Mantegna, notamment, où il délivre Mantegna, peut-être de sa trop grande clarté. Il y repère, en effet, de l'absence, de l'inquiétude. Et puis, bien entendu, jusqu'à ce dernier livre qui vient de paraître, qui est très très beau, sur l'énigme de ce tableau éblouissant de Piero della Francesca, qui est précisément la flagellation d'Urbain. Donc pour moi, Bonnefoy était lié au monde clair, au lieu clair, à l'être clair.
Et là, tout d'un coup,
Et voici qu'on annonce qu'il est en train d'écrire. Il y aurait beaucoup à dire. Et au fond, ce livre, dont je disais que par Baudelaire, il y a un deuxième texte que je trouve capital, et qui est très très beau, qui d'ailleurs, que Bonnefoy prolonge, enfin, et qui, se répondent, c'est celui de Malraux. C'est le grand Saturne de Malraux, qui est le premier grand texte, et à mon avis le meilleur texte, à la fois sur Goya et de Malraux. Donc, pour en revenir, et c'est simplement tracer les grandes lignes d'enthousiasme que peut soulever ce texte, j'en soulignerai d'une part le caractère scrupuleux. Bonnefoy, dans sa préface, évoque sa rude syntaxe auquel il soumet son texte. Et en effet, c'est un texte extrêmement sculpté à mes yeux. C'est vraiment un texte très profond, très près, très serré. Et serré dans l'ordre du langage, mais très serré. Il est rare qu'un écrivain dépouille à ce point l'œuvre d'un artiste. Il a vraiment feuilleté, regardé, examiné l'œuvre de très près.
Mais alors, bon, mais justement, l'un et l'autre, vous avez souligné la présence de la nuit, les peintures noires, et justement, ou d'ailleurs, je l'ai appris en vous écoutant, Jacqueline Risset, donc Goya peignait sur des tableaux clairs déjà existants, un certain nombre de tableaux très sombres, et nous allons en décrire peut-être deux ou trois, mais Goya est aussi connu pour une formule qui orne l'un de ses dessins. Le sommeil de la raison produit des monstres. Et en effet, on voit le peintre endormi et derrière lui, des sortes de bêtes, de cauchemars, de hiboux, etc. On a utilisé cette expression dans le cadre de ce qui pouvait apparaître comme le grand combat des Lumières. Même le marxisme, les Lumières radicales du marxisme, se sont référées à Goya, si je pense au grand livre de Lukács, contre la destruction de la raison, une destruction imputée aux philosophies irrationalistes de Nietzsche à Heidegger. Et en même temps, on se dit que, certes, Goya a été l'homme des Lumières, un homme des Lumières, mais il a un rapport avec la nuit que la lutte contre l'obscurantisme ne peut absolument pas épuiser. Alors, que doit signifier pour nous un tel dessin ? Jacqueline Risset.
Je crois que vous avez raison. Je crois que la formule est beaucoup plus mystérieuse, inquiétante qu'elle ne le semble. Il y a quelque chose de rassurant dans le fait de dire le sommeil de la raison produit des monstres, parce qu'il suffirait que la raison soit bien tranquille et bien vivante pour qu'on évite les monstres. Goya ne les a pas évités, les monstres. Et au contraire, il est entré dans la nuit. Il est entré dans ce sommeil. Il est entré complètement à fond dans ce sommeil. Et la production des monstres n'est pas simplement une production des monstres, c'est une vision des monstres. Et justement, c'est une des choses que dit Bonnefoy littéralement, c'est que ce qu'il voit, et il dit ce qu'il voit. Et c'est par exemple à propos d'un tableau qui est précédent l'époque de la Maison des Sourds et des peintures noires. Donc c'est le tableau qui s'intitule Le Préau des Fous, dans lequel on voit des fous qu'il a vu ça dans un hôpital psychiatrique. J'ai oublié de quelle ville, petite ville autour de Madrid. Et il a vu des fous qui se battaient nus avec leurs gardiens et avec une intensité de violence insupportable. Et je veux dire, avec cette intensité qu'il y a dans la folie, une intensité qui est beaucoup plus forte que les intensités de tous les autres. Et lui a dit qu'il a vu. Il ne les invente pas. Justement, peut-être, et ça, il me semble que Yves Bonnefoy le dit très bien, que c'est une des prérogatives des peintres d'aller plus loin dans l'être, dans la racine terrible de l'être à travers la vision.
Oui, mais il y a des choses qu'il voit et dont il est le témoin, et puis il y a des choses qui relèvent de la vision, affolée, des chimères terrifiantes, tel ce Saturne dévorant son enfant, où Bonnefoy dit, voilà, il y a peut-être quelque chose du fond de la vie, où on est soit la proie, soit le prédateur, qui apparaît là. C'est-à-dire, il y a aussi, semble-t-il, la volonté, non seulement de regarder le monde tel qu'il est, avec les horreurs, les désastres, qu'il délivre et qui, évidemment, décourage en quelque sorte l'idée de progrès. Mais il faut peut-être voir aussi ce qui est le fond même de l'existence. C'est une autre manière de faire face.
Goya a traversé une maladie terrible, celle qui d'ailleurs l'a rendu sourd. Mais cette maladie comportait aussi des hallucinations et le délire. Et l'angoisse et les monstres étaient là à son chevet tout autour de lui. Et c'est quelque chose qu'il représente très bien dans plusieurs tableaux, et en particulier dans ce tableau qui est central pour Bonnefoy, pour l'explication de Bonnefoy, pour son interprétation de Goya, qui est le tableau qui est sur la couverture, où on voit un Goya malade, très très malade, avec un médecin qui le prend affectueusement par les épaules et lui donne à boire. Et l'explication de Bonnefoy est très riche, mais c'est un fait que cette maladie, pour lui, l'a porté auprès des monstres. Et dans le fond de ce tableau, on distingue quelques personnages monstrueux qui sont dans la tête du malade, c'est-à-dire dans la tête de Goya. Et le fait que Goya ait multiplié les autoportraits dans cette époque, c'est aussi une façon presque aussi de reprendre son visage, le visage qui est menacé par ces monstres. Et donc, les monstres sont quelque chose qui vient dans le sommeil de la raison, mais qui sont aussi peut-être le centre même de l'être. Et donc, ça, c'est ce doute que Goya introduit et que Bonnefoy recueille et approfondit.
Jean-Paul Marqueschi.
Je crois que la question que pose, en tout cas, longtemps la peinture a sans doute aurait pu se résumer à cette question. C'est une inquiétude propre, vraiment, au peintre. Sommes-nous sûrs d'avoir un visage ? Je trouve d'ailleurs que tout ce que Bonnefoy creuse autour de cette question, jusqu'au bout d'ailleurs, puisqu'il va falloir aussi dépasser les peintures noires, qu'il y a quelque chose qui survient. Et je trouve les derniers chapitres de ce livre extraordinaire, oui, concernant justement une conversion ultime. Mais j'aurais voulu revenir peut-être un instant parmi les signes avant-coureurs de cet enfièvrement de l'image qui s'empare de son pinceau, ce qui est un phénomène inédit, je crois que personne n'a fait ça. Il y a bien entendu le Saint-François Borgia,
oui,
devant son mourant impénitent, où là toute une jaillit derrière une espèce de on pourrait dire de d'humanité aux confins du monstre, et qui assaille cet être dans l'agonie. Enfin, il y a quelque chose d'agonique qui ne quitte jamais cette peinture dans ses aspects les plus inventifs, les plus courageux, enfin, et les plus éblouissants. Mais je voulais revenir juste un instant sur la question que vous posiez concernant la phrase la plus illustre de Goya, oui, qui a eu un succès extraordinaire. Il me semble que c'est sans aucune ambiguïté. Et c'est vraiment fait une erreur. C'est-à-dire, ce que Bonnefoy, évidemment, ne fait pas, puisque il fait partie de ces gens qui ont regardé la peinture. Ce qui établit qu'il n'y a aucune ambiguïté concernant cette phrase, c'est bien la peinture de Goya. Mais il faut rappeler que le sommeil n'est pas forcément la bonne traduction. Ce que Goya inscrit dans son tableau, c'est le sueño. Et sueño, en espagnol, est ambigu. Ça, c'est à la fois le songe
et le rêve.
Ah oui, ça veut
dire
le rêve.
Et le sommeil.
Oui, ça peut dire, ça peut
évidemment
désigner le rêve aussi.
Donc ça désigne à la fois la fusis, c'est-à-dire le fait qu'on est. Nos nuits sont loin de se résumer à du sommeil. Il y a dans la nuit des phénomènes étranges, tous les neurobiologistes nous l'ont dit. Il y a donc ce qu'on appelle le sommeil lent, mais il y a cette sorte d'interruption mystérieuse qui est le sueño. Donc, ce que je crois que Goya écrit sans aucune équivoque, c'est une mise en garde. Il reste un homme des Lumières, mais il dit, si l'on y prend garde, le sujet de cette phrase, c'est la raison. C'est-à-dire que si le tout raison, le tout lumière est extrêmement dangereux, car dans ce tout raison, il y a de la monstruosité. C'est en ce sens que c'est une mise en garde. Des monstres sommeillent dans la raison.
Ah, c'est ça comme vous savez le traditionnel.
Il n'y a, à mon avis, aucune équivoque. Et d'ailleurs, il n'y aurait pas eu les peintures noires, qui sont un vaste abri sacrificiel, qui ne sont là que pour nous défendre, précisément du fait que cette monstruosité, cette cruauté, cette férocité dont parle si bien Bonnefoy, que nos rêves cachent, si on y prend garde, elle va revenir partout, politiquement notamment.
Bon, et enfin, avant d'en arriver justement à deux ou trois tableaux des peintures noires, je voudrais citer ici peut-être le tableau le plus célèbre de Goya, Fusillade du 3 mai 1814, donc c'est troupes françaises sont entrées en Espagne et des centaines d'insurgés sont fusillés ce jour-là, et ce massacre sera le signal d'un soulèvement général. On voit le peloton d'exécution, mais précisément, c'est la nuit, on est déjà dans le noir, sauf que le peloton d'exécution lui-même est éclairé par une lampe posée au pied des soldats. Et on peut se demander si cette lampe-là n'a pas quelque chose à voir avec les lumières. Peut-être y a-t-il la dialectique des lumières, c'est-à-dire les lumières qui se retournent et qui tuent un homme, et cet homme, c'est évidemment c'est le visage de l'humilié. Donc là aussi, Jacqueline Risset, vous n'êtes pas convaincue?
Non, je le verrais plutôt cette fois-là vraiment comme un des moments dans lequel il y a une sorte de reprise de violence libératrice. Libératrice, il meurt, mais il y a une sorte de cri, dit Bonnefoy. Et c'est-à-dire qu'il n'y a pas le silence terrible de la maison du sourd. Les peintures noires sont noires. Elles sont noires aussi dans le son. Il n'y a pas de sont.
Non, alors, mais là, il y a quand même l'horreur justement des lumières qui se déchaînent.
Oui, mais on peut voir aussi la lumière comme étant la lumière de celui qui se révolte.
D'ailleurs, ne fût-ce que parce que on peut même penser, mais justement, c'est lumière contre lumière. Oui. Il y a une lumière aussi qui émane de sa chemise blanche.
Oui. Quoi.
Alors là, je voudrais vous lire une autre interprétation très belle et qui figure à la fin du livre de Starobinsky, Les emblèmes de la raison. Et c'est d'ailleurs très, très, très parlant, très éloquent, que le dernier chapitre des emblèmes de la raison soit consacré à Goya. Le peintre essentiel de la raison triomphante, c'est David. Et voici que, peintre de la clarté, de la géométrie, de l'ordre, même, et de la logique qui peut aller jusqu'à la guillotine. Et puis, quand même, le dernier mot est laissé à Goya, peintre de l'ombre. Et voici ce que dit Starobinsky dans l'atroce et admirable tableau des fusillades du 3 mai, le groupe rythmé et discipliné des soldats du peloton d'exécution figure une rationalité démente. La régularité, l'ordre, qui eussent dû marquer le triomphe des principes, viennent seulement régler l'exercice de la violence. Par l'obliquité que Goya confère à la scène, il cache le visage des hussards français. Ceux-ci n'apparaissent que de profil, à contre-jour, de la sinistre lanterne posée à leurs pieds. Nous n'apercevons d'eux que l'équipement, fusil, shako, buffleterie, capote, sabre. La lumière, en revanche, s'attache indissolublement au groupe des victimes et plus particulièrement à l'homme du peuple que va abattre la salve imminente. Goya a su donner à son visage sans beauté l'expression simple qui est à la fois au-delà du courage et de l'épouvante, les bras étendus dans l'attitude de la crucifixion, les paumes ouvertes, cet émeutier au trait grossier prend soudain la dimension archétypale de l'homme insulté et humilié par l'homme.
Oui, c'est aussi d'abord le propre de la peinture. Le sens dans la peinture tremble toujours, n'est-ce pas ? Et je crois qu'il n'est pas stable. Bonnefoy, à juste titre, souligne toutes les ambiguïtés de ce tableau. Mmh. Tableau le plus, peut-être, dont le sujet est le plus terrible. Et probablement, on ose à peine courir le risque d'obscénité, mais d'évoquer son extraordinaire beauté plastique. Ce tableau est probablement l'un des plus extraordinaire tableau du point de vue de la peinture jamais peint.
Ah oui, vous diriez ça.
Tous les temps. Il faut aussi attirer.
Bien sûr.
Je crois qu'il ne faut pas enfermer Goya dans le sens, dans la signification, y compris dans une signification tragique. Goya est le grand peintre de la fusis. Il y a peu d'œuvres qui explorent. Et je dirais Goya aurait été un immense peintre sans les peintures noires. Doté des peintures noires, il n'y en a plus de mots. Mmh. Mais il faut bien dire qu'il n'y a pas d'œuvre qui, comme la sienne, déjà dans, je dirais, dans le Goya diurne, celui qui n'accueille pas encore la nuit, est le plus grand inventeur de texturologie picturale. Partout, il y a une sorte de recension jusqu'à épuisement. C'est très intimidant, même pour un peintre. Que faire après lui ?
Alors, mais je trouve que pour aller dans votre sens, c'est-à-dire de ne pas accabler et ne pas accabler Goya sous le poids du sens, là, il y a peut-être un commentaire de Malraux qui est très éclairant, c'est-à-dire sur les raisons de ce que vous avez courageusement en effet appelé la beauté de ce tableau. Malraux, dans ce Saturne, hein, Saturne, le destin, l'art et Goya, dit les sentiments n'étaient guère exprimés de son temps que par le geste démonstratif. C'était celui de la pantomime, où il suppléait à la parole, et une fois de plus celui du théâtre. Il s'accordait au style de celui-ci, et à la nécessité où se trouvait l'acteur de tenir compte des spectateurs éloignés, ce dont le cinéma nous a délivré. C'est quand même très profond.
Oui.
Mais Goya nous en semble-t-il délivré avant le cinéma, oui. Puisqu'il dit « Dans toute l'œuvre de Goya, après les caprices, je ne crois pas qu'il y ait un tel geste. Il ne fait pas tomber en arrière les bras du fusil du 3 mai, il les dresse, il exprime l'âme du prisonnier » par la prostration. Donc, il dit aussi quelque chose, justement, de l'émotion qui nous saisit et qui est liée à la beauté, à une beauté rompant avec le geste démonstratif, donc notamment avec David et son Marat ou autres tableaux qui ont d'ailleurs aussi leur place dans l'histoire de la beauté.
Le Goya est véritablement le retournement de l'horrible David.
Oui.
Et de toute cette épouvantable peinture française contemporaine, dont il retourne
complètement
les entrailles.
C'est une peinture qui recouvre. Oui. Ah oui, d'un côté, sous prétexte d'éclairer.
David est du côté du mensonge de la société. Voilà. Il fait comme comme toute cette peinture française très très mauvaise. Et d'ailleurs, le 18e est un des siècles les plus épouvantables du point de vue de la peinture. Goya vient retourner les entrailles de la peinture et dénoncer le mensonge. D'ailleurs, avec Goya, on voit à quel point l'art est rare. N'est-ce pas ? Il y a actuellement une exposition à Paris. Il faut absolument aller voir où figure d'ailleurs Goya, qui est cet art. Donc, du portrait privé et dans une position parfaitement historique, on voit comment 99% des peintres sont totalement à genoux devant les pouvoirs. Il n'y a pas de génie en eux. Partout d'ailleurs, que ce soit dans la peinture allemande, française, anglaise, et on voit la place inouïe que tient Goya de retournement total du mensonge.
On peut dire justement ce que vous dites est vérifié par la façon dont Goya peint la famille royale. Il y a ce tableau extraordinaire de la famille royale de Carlos IV, qui est une dérision absolument insupportable, et dont on se demande même comment a pu le supporter la famille royale. Il y a quelque chose qui est absolument, qui reste invisible au sujet. La stupidité existe au point de ne pas se percevoir dans un tableau.
Alors, parce que ce sont des tableaux du dévoilement, et non pas des tableaux de la majesté. Oui. Mais c'est ce que dit aussi Malraux, il y a quelque chose qui se termine, de Velázquez à Goya, il y a quelque chose qui tombe, c'est la majesté, dit Malraux à peu près. Oui. Alors venons-en aux peintures noires elles-mêmes. Alors je ne sais pas comment, par où commencer, peut-être par une impression personnelle, de deux tableaux que je ne peux pas me lasser de regarder, en tout cas en reproduction, mais enfin c'est déjà ça. Eh bien, il y a le fameux duel au bâton, où deux hommes se battent ensablés jusqu'aux genoux, et on ne sait pas si le vainqueur même pourra se dégager. Et tout ça est fait, cette lutte sanglante, sans témoin, dans la désolation totale. Et c'est au lendemain des désastres de la guerre, en plus. Donc ça peut dire quelque chose. Et puis, moi, je vois un des plus beaux tableaux qui soit. Je suis très heureux d'ailleurs que Jean-Paul Marqueschi emploie l'adjectif beau. Ça fait vraiment plaisir qu'un artiste contemporain ait le courage d'employer ce qualificatif. C'est le chien. Ce chien dit Bonnefoy, environné par les nappes d'une matière sombre ou vaguement lumineuse dont une le recouvre jusqu'à n'en plus laisser dehors dans ce désert que la tête. Mais il faut dire que c'est extraordinaire parce que le tableau est grand, semble-t-il, et c'est une tête de chien minuscule dans la partie inférieure de la toile. Le reste n'est qu'une sorte de couleur ocre, sans objet, sans personnage. Donc, il me semble que jamais on avait montré la solitude de manière aussi radicale. Et vous parliez de visage, l'homme, dit-on, c'est le visage, c'est le propre de l'homme, ou seul l'homme a un visage. Lévinas ne dit pas tout à fait ça, même s'il est le philosophe du visage, mais là, ce chien a un visage, bien sûr. Donc voilà, c'est deux tableaux pour lesquels je dis mon admiration, que je livre éventuellement à vos commentaires, à votre interprétation.
Crois que, en effet, sur ce tableau du chien, je crois que c'est peut-être celui de la peinture noire qui est le moins noir, définitive.
Absolument. Ce que dit Bonnefoy aussi.
Oui, mais qui est extraordinairement impressionnant, parce que là, on est même dans un au-delà de la cruauté. Ce n'est même plus la cruauté, parce que il y a ce qu'il dit, ce qu'il appelle l'indifférence absolue, c'est-à-dire quelque chose qui n'a pas presque de responsabilité d'une certaine façon. Et donc c'est quelque chose de terrible. Et dans le tableau aussi des hommes qui se battent, il y a le même sentiment d'enfoncement. Il y a aussi quelque chose comme si la nature collaborait à ce côté terrible de l'existence. Il y a un autre tableau qui, pour moi, est peut-être le plus noir au sens physique du noir. C'est le sabbat, dans lequel on voit une silhouette énorme au premier plan, absolument noir, un bouc qui est le diable. Et ce premier plan de cette silhouette terrible a quelque chose aussi, je veux dire, de... Et il me semble que là, Georges Bataille était très proche de ce que disait, de ce que dit aussi Bataille a écrit un très court article dans Critique en 1947. Il y avait une publication de Skira de 195 dessins de Goya. Et Bataille réagit devant ces dessins en disant que Goya, on ne peut même pas l'inscrire dans l'histoire de la peinture. Il dit c'est beaucoup plus que ça. Dans l'histoire vraiment de l'humanité, il y a un changement à son époque dans l'individualité et ce néant dont parle la conscience du néant, la conscience de l'absence de sens dont parle Bonnefoy. Bataille a une de ses formules qui sont vraiment des formules de Bataille extraordinaires. Il dit, et là il est aussi différent, il parle de la valeur positive d'une absence démesurée de sens. L'absence démesurée de sens, c'est ce à quoi s'est mesuré justement, je crois, Goya. Et très très peu à son époque même, qui était même en même temps l'époque. Et ici, Bonnefoy qui parle très peu du contexte historique, mais qui donne des sortes de petites notes comme ça d'avertissement quand il parle de 93, le moment où Goya peint. Et c'est aussi le moment des massacres de septembre de la Terreur à Paris. Et il y a une sorte de conscience de l'absence radicale de sens, de l'absence totale de sens que Goya a affronté.
Bien sûr, je suis absolument intéressé par cette découverte du bord du sens, ce hors-sens. Mais je crois, il faut dire que la noirceur et ce qu'on pourrait appeler le travail du négatif qui s'empare de la peinture de Goya dans les peintures noires est loin de résumer. Ça a quelque chose. Il faut rappeler que Goya donc achète cette Quinta del Sordo, cette ferme, pour s'y reposer, pour s'y soustraire, pour y peindre, peut-être pour y être heureux. Voici que survient, et Bonnefoy le souligne, cette deuxième épisode, cette deuxième maladie,
oui,
épouvantable, qui agit un peu comme une sorte de piqûre, de rappel, si je puis dire, de la première, dont il ressort totalement sourd. Et donc, il sait très bien à ce moment-là qu'il n'y a plus le temps. C'est un homme de 78 ans, il n'y a plus le temps. Alors, ce qui est extraordinaire dans le cas de Goya, c'est non pas qu'il ait pu faire l'expérience de la maladie en tant qu'elle est rappel de l'humus, rappel que nous sommes justement des êtres pour la mort, mais qu'il ait accompli cette chose extraordinaire du don, c'est-à-dire qu'il ait entrepris avec les moyens du peintre, de peindre ce qui s'est produit dans cet tel abîme, et de peindre la perte dont il a été l'objet, mais qui est notre propre perte, n'est-ce pas, qui est celle que nous allons rencontrer. C'est l'homme offusqué, très très mal vu, très peu traité par les artistes contemporains d'ailleurs. Donc il faut dire que c'est un testament. Goya d'ailleurs a quitté la chambre du roi. C'est une œuvre pour personne.
La chambre du sceau.
Non.
La chambre
il
du
est
roi.
Le peintre de la chambre du roi.
Oui, oui, oui. Qui a quitté la chambre du roi pour écrire, pour faire une œuvre pour personne.
Absolument.
Dans la maison du sceau.
Il s'est dessaisi au fond du regard mondain. Donc, il fait une œuvre sans dédicataire.
Mais il s'est dessaisi du regard mondain, il s'est dessaisi peut-être aussi de l'idée du sens.
Non.
Pour reprendre ce que dit
Moi,
Jacques
je crois
Mignolet.
Qu'il reste un homme des Lumières. Il reste un homme de la raison. En atteste l'incroyable maîtrise. Ça n'est pas du délire avec du délire. Ça n'est
non,
pas du hors-sens. Non,
certainement pas.
Oui, c'est une maîtrise extraordinaire. Où il découvre, je crois, pas du tout. C'est là où je me permettrais de... peut-être de commenter un peu différemment et de me dégager du encore que ce que Bonnefoy découvre, c'est-à-dire le fond indépassable de la dévoration, n'est pas loin de ce que Girard découvre. C'est-à-dire, je crois que Goya découvre des lois qu'il établit. Il découvre des lois générales pour l'espèce humaine et valables pour tout le monde. Mais les œuvres de la maison du sourd sont loin de se résumer uniquement à la noirceur. Il y a de la clarté. Il y a aussi quelque chose qui vise à noter, par exemple, je crois, le mouvement des rêves. Et Goya pose la question du rapport de la peinture et des rêves. Et je crois que la peinture de Goya nous parle aussi de ça. Et il y a aussi peut-être déjà quelque chose qui rétablit le visage.
Vous dites, voilà, qui rétablit le visage. Mais pourquoi? Parce que si j'ai bien compris le livre de... dix bonnes fois, une sorte de fil rouge malgré tout. Goya est désespéré, il a quand même peint le désastre, il a fait face, et il dit, tout au début du livre, cette pensée que la compassion institue la seule réalité qui est sens. C'est ce qui est présent sans cesse, et d'ailleurs un peu plus loin dans le livre, il revient à ce fait énigmatique et pourtant réel, qu'est le dévouement sincère, absolument désintéressé d'un être pour un autre être. Et cette peinture du chien est emplie d'une compassion extraordinaire. Et puis vous avez parlé de ces visages terminaux, si je puis dire.
Il y a de la pacification.
Oui, il y a de la pacification, notamment cette lavandière de Bordeaux.
Ah oui.
Aussi, donc,
Léocadia.
Donc, est-ce que ce ne serait pas ça, par-delà les utopies, quelque chose qui relève
C'est là où je pense que Bonnefoy a osé entrer à l'intérieur. Je ne sais même pas si on peut parler d'identification. Je pense que c'est quelque chose d'encore plus profond. L'identification, elle a une identité. Et là, je crois que Bonnefoy entre dans une sorte de d'intériorité et dans l'inconscient même, et dans quelque chose qui est très loin et qui est aussi chez Goya le fait qu'il a traversé cette absence de sens. Je crois qu'il est allé jusque-là, vraiment. Et qu'il y a cela, et que, justement, cette sorte de petite lumière qui se réintroduit par la compassion et qui continue à Bordeaux, disons.
C'est intéressant. Enfin, ce que vous dites, petite lumière, m'évoque deux auteurs auxquels j'ai pensé beaucoup en lisant ce livre, Lévinas et Vassili Grossman, commenté par Lévinas, parce que le Vie et Destin va au fond du désespoir, et puis il y a ce personnage d'Ikonnikov qui dit, voilà, sur le désastre du bien, en quelque sorte, la catastrophe de tous les biens, il voit quand même luire ce qu'il appelle la petite bonté. Et Lévinas cite « L'histoire de l'homme est le combat du mal cherchant à écraser la minuscule graine d'humanité. Mais si même maintenant l'humain n'a pas été tué en l'homme, alors jamais le mal ne vaincra. » Alors ça, nous n'en savons rien, mais j'ai trouvé comme un écho dans le commentaire de Bonnefoy à cette image de la petite bonté chez Vassili Grossman, oui, commentée par Lévinas. Mais peut-être maintenant, allons-nous quitter Goya, quitter Goya. Non, nous ne le quitterons pas, justement, mais nous allons essayer de réfléchir sous son égide et celle de Bonnefoy à votre travail, Jean-Paul Marqueschi, parce que je vous ai invité aussi parce que vous êtes peintre, un peintre qui sait regarder, qui sait parler des œuvres et des œuvres des autres, et même quelquefois d'ailleurs des œuvres de ses contemporains, ce qui n'est pas si fréquent. Mais vous êtes un peintre de la nuit, en quelque sorte. Donc justement, c'est ça que je voudrais savoir. Quel est le rôle que Goya a joué dans votre propre trajectoire? Peintre de la nuit en plusieurs sens. Vous avez fait cet immense ensemble des 11 000 nuits qui doit être bientôt achevé. Il y a aussi la Voie lactée, cet immense vitrail de plus de 500 mètres carrés sur lequel vous travaillez actuellement et qui sera inauguré dans le métro de Toulouse en juin 2007. Et puis, et ça vous allez m'expliquer en quoi est-ce que ça veut dire, vous êtes aussi un peintre du feu. Donc vous peignez le jour, mais vous peignez de manière très nocturne le jour. Alors qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Et y a-t-il un lien, une filiation avec tout ce que nous avons essayé de dire?
Bon, c'est justement, alors, Barthes distinguait la comparaison et l'identification. Donc, sans me comparer à Goya, je peux m'identifier, par exemple, sur ce point-là. On m'a très souvent posé cette question, d'où vient la nuit? Eh bien, si je puis me comparer, elle vient comme un objet indésirable. Si on examine le commencement de mon projet, je proposais de projet très intéressé par la question autobiographique. Il s'agissait donc de capter tous les mouvements de la sensation, essentiellement à travers le monde diurne. C'était le monde clair qui était saisi. Et la nuit est très très peu présente pendant une dizaine d'années dans ma peinture. Et voici que survient une sorte d'accident personnel sur lequel je ne souhaite pas trop m'étendre, mais qui avait un rapport avec la vue. Et je revois ce grand médecin, d'ailleurs, voilà encore une fois la présence de ce beau visage du docteur Arrieta. On revient sur le visage. Et quelquefois, le visage quelque chose qui nous fait plus de bien que le sens. N'est-ce pas ? On a besoin de gens dans le désarroi qui savent produire le bon geste, le geste qui... Et je revois donc ce médecin qui s'appelle le professeur O, qui était un ophtalmologiste, inscrivant sur sa fiche le symptôme, et difficile à supporter tout de même, puisqu'il m'annonce que... Mais la formulation était très belle. Il écrit « Déchirure à midi ». Je dis « Tiens, on dirait un titre de Nabokov ». Et ça résonnait comme « Brisure à sénestre ». Or, comme vous savez, l'œil est figuré, comme certaines parties du corps, comme une horloge, et ça indiquait, malheureusement pour moi, que cette belle déchirure à midi était donc une déchirure rétinienne assez catastrophique et qui a produit l'assombrissement, enfin, une sorte de grande angoisse avec interruption de la peinture. Donc, la nuit est venue comme une déchirure, un peu comme Goya, c'est-à-dire comme un objet dont on ne veut pas. Et elle intervient comme la maladie intervient dans nos vies, comme la mort. On n'en veut pas, mais elle est là. Et donc, il s'est en effet produit une sorte d'agraphie. Pendant quelques temps, la peinture était devenue impossible. Donc, il s'est d'abord produit une vacuité difficile à supporter. Et voici qu'un voyage se fait sur le volcan, dont j'ai souvent parlé.
Stromboli.
Sur le Stromboli. Et qui a été un voyage très beau, étrange, et où, alors que je notais des images diurnes du feu, j'avais dans mon bagage une sorte de flambeau, de chandelle, et à l'endroit, pour traduire l'éruption volcanique, à l'endroit de la Chiara, dans ce lieu merveilleux qu'est le plus belle île de la Méditerranée, à l'endroit du jaillissement de la flamme, j'avais apposé ma petite flamme, pour rendre compte très physiquement de l'éruption volcanique. Mais j'avais été frappé par la beauté des noirs. Et voici que après le noir a fait son œuvre et le feu.
Et donc vous avez peint avec le feu, c'est-à-dire la cire de la bougie allumée. Et c'est maintenant c'est votre pinceau.
C'est ça. Oui, c'est ça. Il y a eu tout un moment où il y a eu un duel entre la peinture, dans le sens classique du mot, et le feu. Et le feu a fini par imposer, une puissance de séducteur, une puissance à la fois terrible, effrayante, mais aussi beaucoup de séduction, est devenu l'unique pinceau, en effet.
Alors, vous connaissez cette œuvre,
Jacqueline? Bien sûr, et elle m'a beaucoup frappée quand Jean-Paul Marqueschi m'a demandé de venir voir ses peintures, et à un moment où il était en train de faire des peintures sur Dante. Et son interprétation de Dante par la nuit m'a semblé très belle, parce que en même temps, ce n'était pas justement des illustrations. La plupart des illustrations de Dante sont quasi anecdotiques. Ce sont des petits morceaux d'éléments, de rencontres. Alors que là, il s'agissait d'une sorte de reprise vraiment et de cette interaction chez Dante. Entre la nuit et le jour absolu. La nuit, c'est l'enfer, et le feu, c'est le paradis. Il y a un négatif et un positif absolu, mais en même temps, il y a aussi, et ça, c'est très riche, c'est chez Dante aussi, mais c'est très fortement, nous le sentons aujourd'hui, une interaction, un renversement toujours possible entre enfer et paradis.
Comment avez-vous appréhendé, justement, ce simple fait-là, de choisir le feu comme pinceau ?
Ah oui, j'ai trouvé ça une très belle idée, parce que elle me semblait correspondre à quelque chose de très génétique qu'il y a aussi chez Dante, par exemple, que a très bien compris Mandelstam, qui a écrit peut-être le plus beau texte sur Dante, dans lequel il décrit que la poésie de Dante comme quelque chose de génétique absolument. Il dit, par exemple, ce qu'il écrit, la plume, c'est un morceau du corps de l'oiseau. Et là, je retrouvais exactement le même procédé, disons, de création, d'invention, de lumière avec la nuit.
Voilà, Dante, après Goya, bonne foi. Et je voudrais dire aux auditeurs que tout cela a, je l'espère, intéressé, même passionné, que Jean-Paul Marcheschi expose en ce moment même certaines de ses œuvres, et ce jusqu'au 25 novembre, à la galerie Vidal-Saint-Phalle, 10 rue du Trésor, à Paris, dans le 4e arrondissement. Bien, je voudrais vous remercier, Jacqueline Risset et Jean-Paul Marcheschi. Je rappelle, bien sûr, le titre du livre d'Yves Bonnefoy, Goya, les peintures noires. Il est publié aux éditions William Blake & Co. Et je voudrais aussi signaler, Jacqueline Risset, la parution toute récente en Italie, pour le moment, chez Donzelli Editore, d'un livre intitulé Il silenzio delle sirene, excusez mon accent. Mais je voudrais annoncer également, et ce qui a d'ailleurs rapport avec notre sujet, la parution au mois de janvier chez Hermann, d'un livre intitulé Traduction et mémoire poétique de Dante à Proust. Et ce sont des conférences que vous avez faites au Collège de France, précisément sous l'égide d'Yves Bonnefoy. La semaine prochaine, donc, l'émission aura pour titre « Grandeur et servitude de l'Homo Faber ». Mes invités seront Gérard Chazal et Olivier Rey. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut, avec la collaboration de Claire Poinsignon et Didier Lagarde. Dans un instant, Jean-Noël Jeannonet.